Alors, bienvenue, on est dans le cours L'âme-sœur. Ça va prendre son sens bientôt, ce titre-là, lorsqu'on va passer au prochain sujet des fréquentations. Je me présente, je m'appelle Yannick Étier. Pour ceux qui, si vous n'avez pas reçu le courriel, je ne sais pas si vous avez reçu mon courriel hier soir, là, mais maintenant, les pistes audio et puis les notes de cours sont présentes sur le site web. D'accord? Alors, si jamais il vous manque des leçons que vous n'avez pas pu assister, vous pouvez aller les écouter ou aller chercher les notes sur le site web directement. Et puis là, elles vont être là chaque semaine. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter la leçon 3 et on va voir la leçon 4 qui est plus brève. Alors, ce matin, on va donc compléter la leçon 3 et puis on va voir la leçon 4. Puis la semaine prochaine, on a un panel avec des gens d'expérience. Donc ça va être la semaine prochaine sur la question du célibat. Et puis ensuite de ça, on commence la deuxième partie du cours qui est sur les fréquentations. C'est bon? Alors, on va se courber dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre, Seigneur, pour étudier ta parole, pour comprendre les relations au sein de l'Église locale, les relations entre frères et sœurs. On veut te demander, Père, de bénir les conversations. On te prie, Père, de venir nous éclairer. On te prie de venir fortifier, Seigneur, la foi de chacun dans l'appel que tu nous as donné. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Je m'excuse pour le bruit. Il y a beaucoup de bruit ce matin, là. Beaucoup de déplacements. Donc, vous pouvez trouver des copies imprimées de la leçon 4 sur la petite table là-bas si vous en avez besoin. Et j'espère pour vous que vous avez vos notes de la leçon 3. Si vous ne les avez pas, je vais quand même lire. Vous pourrez vous y référer. D'accord? On n'avait pas mentionné qu'on allait compléter la leçon 3. J'étais à l'extérieur. Je suis arrivé hier soir de Toronto. Fait que la coordination est un petit peu plus compliquée cette semaine. Je veux aller complètement à la fin de la leçon 3. La vie célibataire dans l'Église. Et puis, on va aborder un sujet un peu plus délicat, je pense, mais un sujet super important. Qui est vraiment toute la question des amitiés pour les personnes seules, pour les personnes célibataires. Je me cherche un petit peu ce matin, là. Alors, je vous lis mon petit paragraphe au haut de cette section-là, la vie célibataire dans l'Église. Regardons à présent les différents types de relations que l'on expérimente comme célibataire ou simplement comme chrétien au sein de l'Église locale. Donc, évidemment, les principes qu'on va dire, ça s'applique aussi aux personnes qui sont mariées, mais je voulais le regarder spécifiquement dans cet angle-là, puisqu'une des grandes questions, c'est les amitiés hommes-filles, hommes-femmes. Lorsqu'on est célibataire, comment on vit ça? Est-ce que c'est admissible? Qu'est-ce qu'il y en a? Puis je prendrai vos questions, vos commentaires, parce que ça peut devenir très concret, très pratique aussi. Relation avec les frères et sœurs du même sexe. Et célibataire. Alors, il va sans dire que les bénédictions sont nombreuses dans les relations avec des frères et sœurs de même sexe et célibataire. Alors, moi, je le vis. Moi, personnellement, je suis privilégié. C'est sûr, je suis marié, mais je suis privilégié aussi de vivre des amitiés très profondes avec des gars qui sont, dans ce cas-là, mariés. Il aurait pu être célibataire. Ça donne comme ça. Mais donc, je jouis de ce privilège-là de bâtir des amitiés à l'intérieur de la foi. À l'intérieur de la foi en Jésus-Christ, d'accord? Où on atteint une profondeur dans ce qu'on peut partager ensemble, dans ce qu'on peut échanger, que je ne peux pas vraiment atteindre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et quand je dis ça, je ne veux pas, mépriser des amitiés que vous auriez avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Je pense qu'il y a des belles amitiés à avoir avec des non-chrétiens. Ça peut être des amitiés très profondes, très, très riches, très profitables. Il faut vraiment faire attention de ne pas... s'enfermer dans un vase clos à l'intérieur de l'Église. Et donc, ça peut être votre plus grande amitié. Mais en même temps, il y a un privilège dans ce qu'on trouve dans notre identité en Jésus-Christ, lorsqu'on va échanger, lorsqu'on va confesser ensemble, lorsqu'on va être là pour se reprendre les uns des autres, lorsqu'on est là pour porter les fardeaux les uns des autres. C'est quelque chose d'unique. N'importe qui a eu le privilège de vivre ça réalise assez vite que c'est unique. D'accord? Et je pense que, comme personne mariée, j'ai une amitié particulière avec mon épouse. Un peu par principe, je vais dire, Esther, c'est ma meilleure amie. Mais Esther est consciente que, je veux dire, j'ai 3-4 meilleurs amis, puis c'est une de mes meilleures amies. Il y a une autre dimension à notre relation qui va au-delà de l'amitié aussi. Mais je peux dire vraiment que mes amitiés à l'extérieur du mariage sont aussi précieuses et aussi riches. Donc, il y a un partage, une intimité qu'on peut avoir, qu'on soit marié ou non, dans une amitié avec quelqu'un du même sexe. Il y a de la place pour de l'édification, pour de l'encouragement, pour servir ensemble, pour vivre des moments de loisirs, des moments de repos aussi. Et si on est célibataire, bien, il y a probablement beaucoup plus de place pour cette amitié-là. D'accord? Paul dit très, très bien, on a pris le temps de l'établir déjà, que celui qui est marié se doit premièrement à sa femme, se doit premièrement à son époux. Et donc, oui, dans ce sens-là, moi, comme homme marié, je me dois premièrement, le meilleur temps que je vais le garder pour ma meilleure amie, qui est mon épouse. D'accord? Et donc, je pourrais pas investir dans une amitié avec les gars comme si j'étais célibataire, par exemple. Et je pense qu'il faut apprécier ce privilège-là. C'est vraiment précieux. Maintenant, il faut décider que cette amitié-là, ces amitiés-là vont être des amitiés vraiment chrétiennes. C'est-à-dire qu'il faut que dans cette amitié-là, il y ait un espace où on prie ensemble. Il y a un espace où on confesse nos péchés les uns aux autres. Et je crois que beaucoup de chrétiens, je ne saurais pas mettre un pourcentage sur ça, mais je crois que beaucoup de chrétiens ne se rendent jamais à ce niveau-là dans leurs amitiés. Même ils vont vivre une sorte de, je vais le dire comme ça, une sorte de formalisme religieux, dans le sens que je m'en vais à mon petit groupe ou je m'en vais dans un contexte organisé par l'Église, puis là, on va faire des activités spirituelles ensemble, comme confesser nos péchés, admettons. Ah, ça, je vais le faire avec mon petit groupe. Mais je me retrouve avec mon chum, mon ami là, de gars, admettons, puis oups, ça, c'est pas installé dans notre relation. Ça, c'est vraiment triste, mais je pense que pour beaucoup de chrétiens, lorsque vous êtes avec des amis chrétiens, il manque une dimension qui est la plus précieuse. D'accord? Puis peut-être que vous allez jaser de l'exposé biblique ou de l'enseignement à l'Église, des choses comme ça, puis bon, déjà c'est ça, mais en même temps, ça ne va pas plus loin que ça. D'accord? Et si vous ne vous rendez pas là, je vous dirais, si en plus vous êtes célibataire, bien, il manque une dimension à votre vie qui est super précieuse. Mais remarquez que vous pourriez être marié puis pas vivre cette amitié-là à l'intérieur de votre couple aussi. D'accord? Ça pourrait être aussi assez superficiel au niveau de l'intimité spirituelle, je dirais. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires juste sur ce que j'ai mentionné là, par rapport aux amitiés avec personnes de même sexe? Ça va, c'est clair? Je ne vous ferai pas lever la main, mais je serais quasiment tenté de vous faire lever la main pour dire qui a vécu ça comme amitié, mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, d'accord? Mais je suis convaincu que ce n'est pas tout le monde ici qui a vécu ça. Et c'est vraiment précieux. Si Dieu ne vous a pas donné ça, demandez à Dieu de vous donner ça. Des amitiés. Puis c'est pas... C'est des amitiés où il y a une grande liberté. Dans le sens que mon ami ne devient pas ma propriété. D'aucune manière. Mais il y a un investissement mutuel qui est là. Il y a quelque chose de mystérieux avec l'amitié. J'ai appris ça. Là, je fais juste un petit commentaire sur mon expérience avec l'amitié qui est... Je ne pourrais pas sortir des principes bibliques pour justifier ce que je veux dire. C'est plus une observation que je vois même dans les Écritures. Je pense qu'il y avait une belle amitié entre Paul et Barnabas qui, à un moment donné, a été éprouvée. Puis les deux gars se sont séparés. Il y a quelque chose de mystérieux avec l'amitié. C'est comme si on ne peut pas tout à fait commander ça, cette affaire-là. Il y a quelque chose qui se passe. On dit, OK, on peut aller plus loin dans cette relation-là. Et puis, fait que c'est comme une rencontre qui n'est pas tout à fait planifiée. Et dans ce cas-là, si vraiment l'intérêt est mutuel, moi, je crois qu'on gagne beaucoup à s'engager un petit peu plus, c'est-à-dire à mettre les choses sur la table. J'aime notre amitié, puis j'aimerais ça que ce soit plus profitable. D'accord? Peut-être que vous aurez le privilège que moi, j'ai d'avoir fait des alliances. Moi, j'ai fait plus qu'une alliance avec ma femme. J'en ai fait d'autres aussi dans des amitiés à la vie et à la mort. D'accord? Et peut-être que vous aurez ce privilège-là, mais il ne faut pas forcer ces choses-là, parce qu'après ça, on peut devenir comme prisonnier de ces relations-là. Moi, j'ai eu le privilège de le faire avec des amis, puis on respecte cet engagement-là. J'ai fait un voyage avec deux amis il y a deux semaines. C'était notre 25e retraite qu'on faisait. On fait deux retraites par année. C'était notre 25e retraite spirituelle qu'on faisait ensemble en 12 ans. D'accord? Donc, on en fait deux par année. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Puis c'est vraiment une bénédiction énorme. Dans ce cas-là, notre amitié, on l'a scellée avec une alliance, avec des engagements très, très clairs. D'accord? François était pasteur à Fermont. On s'était engagés, les deux autres gars. Tu peux nous appeler n'importe quand. Si c'est la catastrophe totale, même si je prêche demain matin, je vais expliquer à l'Église que je ne peux pas être là, je vais être à Fermont. Tu as juste à m'appeler, donne-moi 16 heures pour me rendre en auto, puis je suis là. D'accord? Puis l'engagement était clair, nos épouses le savent. Ça va être à la vie, à la mort. Peut-être que vous aurez le privilège de vivre ça, mais ce que je voulais dire par là, c'est, je pense qu'il faut accepter aussi que les amitiés fluctuent. C'est difficile de voir, des fois, il y a comme une amitié qui s'installe, puis après ça, il y a des circonstances qui font qu'il y a une distance, puis il n'y a pas de rancune, mais les événements de la vie nous séparent, puis les chrétiens, on est des pèlerins. Fait que moi, j'ai juste ma pèlerine qui va voyager avec moi parce que je suis marié. Mais c'est tout. À part de ça, mes enfants aussi, à un moment donné, m'ont quitté le foyer, puis ça se peut que mon fils réalise son rêve d'aller vivre au Japon. OK? T'as tenté pas de vivre à Québec? Non. Pèlerin. Relation avec le sexe opposé comme personne célibataire. Alors là, on rentre dans le mordant, dans le croquant. Voilà peut-être un sujet plus délicat, mais pourtant tellement beau et riche. En effet, plus que n'importe où ailleurs, l'Église locale doit être l'endroit où nous apprenons à vivre des relations saines et riches entre célibataires de sexe opposé. Ces relations ne sont pas à fuir, mais à apprendre. Quelle est la base fondamentale de ma relation à moi, même comme homme marié, avec d'autres femmes qui n'est pas mon épouse, ou comme célibataire, si j'étais célibataire avec des femmes dans l'Église, quelle est la base fondamentale de ma relation? Bien, c'est ma petite sœur. D'accord? Donc, on l'a dit, la base des relations au sein de l'Église locale, ce sont des relations familiales. On est tous enfants de Dieu si on appartient à Christ, et les relations qu'on a ensemble, c'est des relations familiales. Et sur cette base-là, bien sûr que je peux vivre une amitié avec ma petite sœur. Et je pense qu'on a énormément à apprendre, d'accord? Parce qu'on, malheureusement, trop souvent, le genre de relation qu'on réussit à garder avec le sexe opposé, qu'on soit marié ou non, évidemment, quand on est marié, dans le fond, on fait juste comme fuir ça s'il n'y a pas de maturité. Le genre de relation qu'on garde, c'est flirt ou fuite. D'accord? Mais ça, c'est les relations, c'est les amitiés entre gars et filles dans le monde en général. D'accord? Soit que c'est une affaire qui va tourner vers un flirt, ou soit que je fuis tout simplement parce que je ne veux pas que ça aille là. Puis il n'y a aucune maturité, dans le fond, dans la relation. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Ça va jusque-là? La notion de frère et sœur prend tout son sens ici. Si mon rapport avec le sexe opposé en était un de flirt ou d'ignorer sans équilibre et sagesse avant de connaître Christ, je suis appelé à présent à me comporter avec sagesse et toute pureté dans ces nouvelles relations familiales qui s'offrent à moi. Reconnaissons-le, la tentation charnelle, dirons-nous, est de traiter toute personne de l'autre sexe comme un conjoint potentiel ou de s'en distancier le plus possible. D'accord? Donc, je pense qu'on garde un modèle de relation qui est la relation avant que je connaisse Jésus-Christ. Toute femme, si moi je suis disponible, est dans le fond une conjointe potentielle, ou si je ne voudrais pas qu'elle pense que je considère ça, je vais me sauver. D'accord? Puis en général, c'est ça. Maintenant, dans le monde, des fois, ça arrive qu'il y a des amitiés goffées qui sont vraiment juste des amitiés, puis ça va jamais s'en aller ailleurs. D'accord? Mais c'est plus exceptionnel. Généralement, ça va tourner dans cette direction-là. Est-ce que ce serait Jésus seul qui pouvait avoir une relation comme homme avec des femmes, avec sagesse et équilibre? Je fais exprès parce que je sais que je crois que c'est un des endroits où on est soit pas assez prudent ou soit trop prudent dans les amitiés homme-femme. D'accord? Puis je fais exprès pour aller vers Jésus parce que c'est clair que Jésus vivait une grande liberté dans ses rapports avec les femmes. Puis c'est clair que ça s'en allait pas vers le flirt. D'accord? Et ça troublait énormément les gens. Je ne sais pas si vous avez des scènes qui vous viennent à l'esprit dans les évangiles où Jésus est en relation, par exemple, avec la femme samaritaine. Je veux dire, quand les gars l'ont vu seul avec une femme samaritaine, je veux dire, ça regardait vraiment mal son histoire. Mais Jésus arrive, puis Jésus nous montre une autre manière de vivre. Jésus nous montre, chaque fois que tu vois Jésus fonctionner, tu es dans le royaume. D'accord? J'ai pas d'espace dans les Écritures, selon moi, j'ai pas d'espace dans les Écritures pour dire, « Oui, mais ça, c'était Jésus. » Bon, si quelqu'un se courbe puis l'adore, je peux dire, « Ça, c'était Jésus. » Vous comprenez? Ça, ça va. Mais à part de ça, Jésus nous dit, « Ce que j'ai fait, vous allez le faire. » Fait que nous, on a une approche, puis on dit, « Oui, mais non, mais moi, je suis pécheur. » Lis les Écritures. Lis les Écritures. Jésus ne te donne pas l'espace pour dire, la sainteté, c'est ça pour Jésus, puis pour toi, ben c'est ça, parce que toi, tu es un toto, tu sais, fait que faut que tu te mettes des barrières. Je ne sais pas si vous pouvez trouver un passage qui dit ça, là. Il va dire, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Mais il n'est pas en train de dire que c'est ça la maturité. Il va dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Puis la promesse qu'il donne, c'est que lorsque son esprit va être donné, on va marcher comme il a marché. Donc, le rapport que Jésus a avec les femmes qui troublaient l'époque, d'accord, qui est un rapport très, très sain, c'est un rapport qu'on devrait avoir entre frères et sœurs, qui est très, très sain, pur. Comprenez, je ne parle pas, là, de flirt, je ne parle pas de relations où on va admettre de la promiscuité. La promiscuité, c'est un contexte qui peut favoriser le péché, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que je vais sortir à chaque semaine avec une sœur dans l'église pour aller au cinéma, puis on va être côte à côte dans le noir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord? D'abord, ce n'est pas la meilleure manière de développer une amitié, d'aller au cinéma. Vous devriez aller prendre un café plutôt qu'aller au cinéma. C'est beaucoup plus profitable qu'un film. Mais vous comprenez? Donc, c'est pas que je ne permettrai pas de promiscuité, je ne permettrai pas de situation ou équivoque où je pourrais laisser entendre à l'autre que, dans le fond, je suis peut-être en train de la courtiser. Mais je pense qu'il y a vraiment des contextes où on est en groupe, on est avec des amis, puis je dois pouvoir retirer, par exemple, moi comme homme, des sœurs dans l'église, ce qu'il n'y a pas dans ma tête à moi, je suis un gars, je ne pense pas comme une femme. Il y a un million d'affaires que je n'arrive pas à voir, d'accord? Parce que je ne suis juste pas fait de même. Puis je pense que ça doit être là, ça fait partie de la richesse de l'église. Donc, je vous ai donné un graphique qui aide peut-être à voir en théorie, ça reste très théorique, il manque comme plein de petits conseils de sagesse. Mais d'un côté, il y a la promiscuité où le rapport suggère toujours que ça va finir avec un flirt quelconque. D'un autre côté, il y a la paranoïa où je dis la seule manière d'avoir un rapport sain avec l'autre sexe, c'est de me tenir très, très loin. D'accord? Qui ne ressemble pas du tout à ce que Jésus vivait. Puis il y a l'amitié biblique qui est à construire, qui est à apprendre. Alors, si vous avez vos notes un petit peu plus bas, j'ai au centre amitié biblique. L'amitié biblique signifie que j'apprends à me conduire avec tous comme avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. La beauté intérieure de l'homme et de la femme et les richesses de nos différences peuvent être appréciées par des célibataires, tout comme par des gens mariés, bien que les rapports ne soient pas les mêmes qu'entre époux, évidemment. Mais vous comprenez que dans un sens, ce que les célibataires vivent avec l'autre sexe, bien, la personne mariée le vit avec l'autre sexe avec qui elle n'est pas mariée. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, toutes les sœurs dans l'église avec qui je ne suis pas marié, je devrais avoir le même genre de rapport qu'un célibataire va avoir avec une sœur qui n'est pas mariée. D'accord? Il y en a juste une avec qui le rapport est différent, c'est mon époux. Je suis conscient que certains d'entre vous vous dites, j'aime pas ça, Yannick, il y a des choses qui vont déraper. J'aime pas ça parce que tu es en train de nous dire qu'il devrait avoir plus d'amitié, il devrait avoir plus de relations. Je comprends, mais quand sur une base personnelle, je décide de mettre un mur de sécurité, disons, un peu plus protecteur que ce que la parole de Dieu commande, je peux le faire sur une base personnelle. Parce que je me connais, je connais mes faiblesses. D'accord? Par exemple, moi, je fumais. Avant de me convertir, quelques années avant, je fumais. Bon, bien, il y a des chrétiens, des fois, qui vont fumer un cigare. Je sais, je vais peut-être scandaliser bien du monde. Il y a des chrétiens qui vont fumer un cigare. Je ne pense pas qu'un chrétien devrait fumer constamment un cigare puis qu'il devrait être accroché à ça. Mais j'aurais de la difficulté à dire que c'est vraiment plus mal que manger un gros morceau de chocolat avec du sucre blanc puis tout le kit. Les deux sont probablement relativement toxiques, d'accord? Mais moi, je fumais. Puis j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Je fumais mes petites Camel, mes petites cigarettes turques, puis je trippais là-dessus. Mais j'ai jamais fumé de cigare dans ma vie. Après que j'ai arrêté de fumer, j'ai jamais touché à ça. Je me suis mis un mur parce que c'était même plus qu'une dépendance. C'était vraiment un trip. J'aimais beaucoup ça. J'étais élevé avec un père qui fumait la pipe. Fait que je rentre dans une place comme ça, puis c'est toute mon enfance qui me revient à l'esprit. Fait que moi, j'ai un mur qui est là. Mais si je m'en vais du haut de la chair, puis que j'annonce à tout le monde, s'il y a quelqu'un qui fume un cigare dans sa vie, il est en train de pécher. Je suis en train de mettre un mur où les Écritures ne sont pas claires du tout que je dois mettre cette interdiction-là. Et là, je suis en train de dresser du légalisme. Donc, sur une base individuelle, je dis, Yannick, quelqu'un me dit, Yannick, tu ne comprends pas, je ne suis pas capable d'être en relation avec une fille sans être en train de la flirter. Il y a des filles qui sont comme ça, c'est beaucoup plus évident avec des filles. Il y a des filles qui ont appris dans le monde, le seul rapport qu'elles ont avec des hommes, c'est du flirt. Tout le temps. Puis, il n'y a rien d'autre qu'un flirt, vous comprenez? Ce n'est pas qu'elle va aller plus loin, mais son rapport avec l'homme, c'est toujours un rapport de séduction. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, si elle vient de se convertir, qu'elle dit, regarde, je vais rester loin de ces bébites-là. Quand je vais être plus mature, puis que je vais être capable d'avoir une relation saine, au lieu de toujours être dans un rapport de séduction, bien là, peut-être que je pourrais avoir des amitiés plus saines, d'accord? Mais ça, c'est quelque chose qu'elle se met qui relève du principe de Jésus. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Mais Jésus n'a pas dit, si la main pouvait être une occasion de chute pour qui que ce soit dans l'assemblée, coupez toutes les mains de l'Église. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit ça. Ça serait du légalisme. Et il faut vraiment faire la balance entre les deux. Donc, lorsque j'ouvre une boîte de Pandore, lorsque j'ouvre une possibilité en disant, je pense qu'il y a des rapports sains entre frères et sœurs qu'on doit avoir, qui ressemble au rapport que Jésus avait avec les femmes, qui ressemble au rapport que je vais avoir avec une sœur, si j'avais une sœur naturelle, ça serait sain, ça serait correct. Puis je comprends que je vais avoir des paramètres un peu plus sécurs avec une sœur dans l'Église, parce que ma sœur naturelle, je vais peut-être aller manger plus souvent avec elle au restaurant, puis elle ne s'imaginera rien. Mais oups, dans l'Église, ben, tu sais, je vais faire attention, je vais avoir des paramètres, on va faire ça entre amis, c'est correct. Je vais être sage avec ça, je comprends tout ça. Mais je dois chercher cette sagesse-là. Et si je ne suis pas assez mature pour le vivre, ça se peut que je me mette des barrières personnelles. Ça se peut qu'il y ait de la sagesse pour dire, pour un temps, je suis en train de grandir, je me tiens un petit peu plus loin de ça, je ne me sens pas mature. Mais en même temps, on doit grandir dans ça comme Église. Parce que de toute façon, ce que vous craignez comme scandale, comme péché dans l'Église, ce n'est pas avec la loi et avec le légalisme qu'on va protéger l'Église du péché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. D'abord, le légalisme conduit à l'hypocrisie, qui est le péché lui-même. Mais la loi n'empêche pas l'homme de pécher. La loi, on a une nature pécheresse. La loi nous donne le goût de pécher. C'est ça qu'elle fait. On est fait comme ça. Fait que mettre une loi qui ne vient pas de Dieu, je ne construis rien. Je vais prendre vos commentaires, vos questions. C'est le temps de me dire que je suis un hérétique et que je vais conduire l'Église dans la débauche totale. C'est le bon moment pour le dire. Est-ce qu'il y en a? Non, mais est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Vous devez avoir des questions sur ça, non? Oui? Oui. Je vais répéter ta question. Dans le fond, si mon héritage familial ne m'a pas donné des modèles de relations frères-sœurs sains, comment est-ce que je peux le vivre sainement dans l'Église? Super bonne question. C'est une excellente question. Maintenant, plus souvent encore, les chrétiens vivent ça dans leur rapport avec Dieu le Père. Si ton père n'a pas été un père... au moins correct, ça se peut que tu aies de la difficulté avec Dieu le Père. Puis ça se peut que tu sois toujours juste en train de prier Jésus parce que Dieu le Père, tu n'as comme pas le goût de parler à Dieu le Père, c'est celui qui a une verge puis un bâton puis qui est là pour te châtier. Fait que le chrétien doit demander à Dieu, chercher dans l'Église l'aide, chercher dans les Écritures la grâce pour que Dieu vienne sanctifier ça, vienne transformer ça, puis que son rapport avec Dieu le Père devienne vraiment une grande bénédiction. Fait que c'est pour ça que je dis, lorsqu'on arrive dans la foi, on arrive avec notre héritage. Pour plusieurs, ça va être un héritage de flirt constant avec l'autre sexe. Pour d'autres, il va y avoir des histoires familiales qui vont être difficiles. On arrive avec notre héritage. Et puis, la communauté chrétienne est cet endroit où on arrive avec notre héritage, puis on grandit ensemble. Puis on apprend ensemble. Fait que c'est ça. Selon l'héritage de chacun, ça peut être plus difficile. Puis certains vont, comme je vous dis, ça va être un rapport de flirt. Fait que ça a de l'air sympathique au début, c'est une amitié, puis ça dérape toujours vers ça. Fait qu'il y a de la sagesse à avoir dans les rapports. Je pense que l'amitié homme-femme célibataire est plus une question de groupe, d'accord? Mais c'est correct, pour moi c'est très correct, qu'une sœur, qui n'est pas mon épouse, réalise qu'on a plus d'affinité qu'avec quelqu'un d'autre, parce qu'on est dans un contexte d'amitié, de groupe, puis tout ça. C'est pas en train de tourner au flirt, cette affaire-là, vous comprenez? Les couples mariés vont le vivre. Je viens à toi, et ça, ce sera pas long. Les couples mariés vont le vivre. Dans le sens que moi, je pourrais avoir des amis de couple, d'accord? Puis ça se peut que je m'entende mieux avec l'épouse qu'avec le mari. Et là, on se dit, OK, ben c'est correct, parce que de toute façon, on est toujours deux couples mariés lorsqu'on se voit ensemble. On se voit pour jouer aux cartes, faire un petit souper. Fait que, mais tout le monde le sent bien. C'est comme ça clique plus, puis l'autre, tu es toujours en train de te pincer avec. D'accord? Admettons, où il y a plus de désaccords. Vous comprenez? On va le vivre. Fait que je pense que c'est correct que ça se produise, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de moi, des sœurs, qui réalisent que ça clique plus, c'est plus facile, on pense de la même manière, puis ça en est drôle, tu sais. Je peux me permettre de faire ça dans un contexte où je vais garder ça saint, je vais garder la sainteté, la pureté, je vais garder un contexte où il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de flirt, je ne suis pas en train d'essayer de bâtir une connivence avec toi qui peut devenir malsaine. Oui, Aïssa. Oui.
J'ai beaucoup d'écoute, mais à l'opposé, dans les sens opposés. Je ne suis pas très vieille dans le chemin du Seigneur, mais dès que je l'ai connu, moi je pensais que mes frères et sœurs étaient mes frères et sœurs. Je l'ai cru, vraiment, je l'ai cru. Puis on ne séduit pas un frère, on ne séduit pas une sœur.
Oui.
Clair comme de l'eau. Dans ma famille, dans mon foyer, moi, mes frères et sœurs de sang, nous sommes été élevés dans le contexte d'exprimer, de servir, de s'appuyer, de parler en tout temps. Avant de venir au Seigneur, je sais qu'est-ce que c'est le flirt.
Okay?
Mais quand j'ai connu le Seigneur, je me sentis parce qu'il n'existe plus.
Hein. Oui, oui.
Mais je trouve des barrières.
Oui.
Je trouve des murs, pas que j'ai mis.
Oui.
Sinon que c'est comme si, écoute, c'est qui toi? Pourquoi tu viens vers moi comme ça? Et il y a un moment, Yannick, que je ne sais pas comment dire.
Oui, absolument. Absolument. Alors, je vais juste résumer là, pour... l'audio, là. Mais ce qu'Aïssa mentionne, dans le fond, c'est qu'elle, lors de sa conversion, elle a vécu une grande liberté dans ses rapports avec tous les frères et sœurs. Puis au contraire, souvent, elle va rencontrer un mur où les gars vont être comme... Ils vont mettre eux-mêmes des freins. Puis c'est ça l'Église, Aïssa, dans le sens que je suis en relation avec des gens qui sont plus ou moins matures, puis je dois les aimer. Puis on a déjà jasé de ça ensemble, puis j'aime ça que tu soulèves la question. Mais donc, la liberté que toi, tu vas avoir va aider des gens à comprendre que ça peut être plus sain. Puis des fois, tu vas devoir restreindre ta liberté par charité pour l'autre personne qui non, n'est pas là, tu sais. Puis je veux dire, il y a toute une dimension culturelle. Dans l'Église, on trouve plein de cultures qui se rencontrent. Je vais donner un exemple un peu bébête, mais qui est quand même réel. C'est que si je m'en vais vers quelqu'un qui est anglophone, peut-être qu'il y en a ici qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais il y a quand même un élément culturel. Si je m'en vais vers un anglophone, c'est pas évident pour eux de sauter d'un bras et faire une accolade, hein? Vous savez ce qu'on appelle là, comme notre bulle là, autour de nous, là, notre espace vital? Là, souvent, pour un anglophone, c'est une couple de pouces de plus. C'est pas vrai avec toute la gang. Puis, il y a comme quelque chose qui change. J'étais à Toronto, hop, il y en a, ils savent. On est des Québécois, ils viennent me voir, paf, c'est un accolade. Mais il y en a d'autres sur une poignée de main, puis ils sont là, puis hop, on reste avec la distance. Tu sais. Fait que mon ami Stéphane Gagné, le père de Justine, Stéphane, lui, il ne connaît pas ça, l'espace vital, ça n'existe pas. Fait que lui, c'est, il n'y en a pas de bulle, on est toujours en contact. Fait que je me rappelle de Stéphane Gagné qui va vers Don Carson, puis qui s'en va pour y sauter dessus, puis faire une accolade. Puis Don, c'est, tu comprends? S'il y avait eu un bâton, il l'aurait poussé avec un bâton. Mais non, c'est, tu ne fais pas ça, là, tu sais. C'était une invasion, d'accord? Et donc, ça demande la charité dans l'Église pour comprendre. Il y a la culture, il y a les différences, il y a tout ça. On apprend les codes de chacun, on y va avec douceur, on y va avec écoute de l'autre. Mais en même temps, il y a une maturité qui s'installe où les rapports deviennent plus sains. Oui, Maria. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'on va avoir des règles. C'est pour ça, tantôt, je disais, je vais avoir des principes de sagesse pour éviter des situations de promiscuité qui suggéreraient quelque chose, qui nous placeraient dans une situation où on pourrait pécher. Maintenant, je vais vous challenger un petit peu. Alors, je veux dire, toute la question des rapports goffés puis qui doivent être bien faits, c'est super pertinent. Mais la prochaine génération qui s'en vient, je veux dire, la fille, elle peut tomber autant avec une fille qu'avec un gars, vous comprenez? Les prochaines générations, ça peut être deux filles qui sont ensemble comme amies dans un appartement, puis on a de plus en plus de situations comme ça où les filles tombent ensemble, d'accord? Parce que ces générations-là, ben, t'essayes toutes, puis ça finit là. Fait que même dans ce cas-là, ça se peut qu'un rapport, une amitié entre deux filles, dans certains cas, tu te connais, tu vas avoir des règles aussi où ça va se passer en public parce que tu veux pas avoir une situation équivoque, d'accord? Fait que oui, il y a des principes de sagesse. Il y a des principes parce que je veux prendre soin de l'autre. Je veux lui communiquer, on est juste des amis. Puis c'est correct comme ça, parce qu'on est des frères et sœurs, puis c'est sain. Fait que je pense pas que j'aurais une amitié avec une fille. Si j'étais pas marié, je pense pas que j'aurais une amitié avec une fille où on passerait notre temps à sortir à toutes les semaines ensemble, juste nous deux, même au restaurant. Parce qu'à quelque part, à un moment donné, il y a quelque chose qui risquerait de sortir de ça. Puis c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas y faire du mal. C'est génial, on est des frères et sœurs, tu sais. Fait qu'en général, on va se voir plus entre amis, avec quelques amis, puis c'est beaucoup plus sain. Il y a de la sagesse à avoir dans ces rapports-là. Oui, Tatiana. T'es quand même mariée, là. Ah, OK. C'est juste pour clarifier. Je te taquine. Absolument. C'est une bonne question. Je vais y répondre brièvement parce que c'est plus dans le contexte des gens mariés, puis on est plus sur la section sur le célibat. Je ferais vraiment attention à devenir le confident personnellement d'une sœur autre que mon épouse. Même si je crois que je pourrais être ami avec une femme, devenir son confident, c'est un autre. On s'en va ailleurs, on s'en va dans un autre domaine. Fait que de toute façon, je pense que je ferais très attention à ça. C'est plus des situations de groupe. Dans le cas d'un homme marié, 100 fois plus, d'accord? Et maintenant vous devez réaliser quelque chose, c'est que moi, je suis pasteur. Fait que des confidences de femmes, j'en ai reçu beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais quand ça se produit? Et la sœur, elle peut demander, bon, on a des principes, là, il y a des vitres dans nos bureaux, on s'arrange pour ne pas avoir des situations qui pourraient justement tourner à des quiproquos, puis tout ça, il y a quelqu'un dans le bureau, on n'est jamais comme vraiment seul. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose qui est partagé, qui est là, parce que la personne, elle vient demander de l'aide, puis elle déballe son sac, tu sais. Mais après ça, je vais la diriger vers quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui va faire un suivi où on va développer quelque chose de très, très intime, parce que je reçois ses confidences semaine après semaine, après semaine, après semaine. D'accord? Mais donc, ça peut arriver que j'ai, pas juste comme pasteur, ça pourrait arriver à n'importe quel gars, n'importe quelle fille, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui file pas, puis pouf, il déballe son sac, puis il y a ça qui est là. Maintenant, après ça, je vais le diriger, je pense, vers quelqu'un du même sexe. Puis, comme personne mariée, d'autant plus que je veux toujours être certain que mon épouse est convaincue que ma seule vraie confidente, c'est elle. Oui, François. Oui. 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 il y a une différence avec... Il y a définitivement une différence. Mais je pense qu'il y a une différence aussi avec... Bon, moi, j'ai juste un frère, mais si j'avais une sœur, il y aurait une différence aussi. Je me chamaillais beaucoup avec mon frère. Je ne suis pas sûr que je me chamaillerais avec ma sœur adulte de la même manière. Parce qu'il y a une intimité physique que je ne veux pas avoir, même en me chamaillant avec ma sœur dans la chair, admettons. Là, si j'avais une sœur physique, il y aurait une différence. Vous comprenez? C'est une femme. Là. Fait que, je ne veux pas me chamailler avec elle de la même manière. Vous comprenez? Fait que, il y a définitivement une différence. J'ai quand même pas d'instance où je vois... Et je ne l'ai pas... Oui. Oui. Il y a une différence, François, c'est clair. Puis c'est pour ça que je dis qu'il doit y avoir de la sagesse dans nos rapports avec les chrétiens de l'autre sexe. Oui, dans le cas où la personne du même sexe, son orientation est claire dans sa tête, c'est de moins en moins le cas. Fait que c'est vrai ce que tu dis, là, mais c'est pour notre génération. Attendez dans 5 ans, vous allez voir dans l'Église à quoi ça va ressembler. Mais je suis d'accord avec toi, François, puis je vois pas chez Jésus non plus. En fait, je vois pas chez Jésus des situations où il part dans une amitié seule avec quelqu'un, puis cette relation-là est comme unique. Jésus est généralement dans des situations de groupe avec les personnes. Puis je pense que c'est beaucoup ça le genre de relation qu'on va avoir aussi. Est-ce que je peux imaginer que Jésus, s'il avait vécu un autre 30 ans sur la terre, sa meilleure amie ou son meilleur ami serait été une fille? Théoriquement, oui, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait ça. Je ne suis pas certain qu'il aurait fait ça. Ça ne cadre pas dans ma compréhension de ce rapport-là. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment un bond en avant à faire pour avoir des relations où les sœurs avec qui je suis en rapport n'ont pas à craindre que je sois en train de les flirter, puis je n'ai pas à être toujours en train de me sauver des sœurs. Il doit y avoir des contextes où on est capable de bénéficier vraiment des frères et sœurs dans la foi. Et je pense qu'il y a des principes de sagesse qui doivent être là pour éviter de communiquer des choses qui ne seraient pas saines, pour éviter de créer des attentes ou communiquer un message qui est faux. D'accord? Donc, ce n'est pas le même rapport. C'est définitivement pas le même rapport. Mais c'est un rapport comme je pourrais en avoir un avec ma sœur. Puis pour moi, par exemple, une belle comparaison, c'est la relation que j'ai avec ma mère. Moi, dans mon cas à moi, ma meilleure amie fille à part ma femme, c'est ma mère. Puis, je veux dire, il y a des moments où il a fallu qu'on fasse comme comprendre à mon beau-père que c'est pas que je t'aime pas, Emilien, je vais aller souper avec ma mère. Puis, c'est parce qu'on a une amitié. Notre relation évolue avec le temps, puis on est juste content d'être ensemble. Puis, lui, c'est comme, ben oui, mais on ne voit pas souvent, puis je vais être avec vous. Ouais, j'ai une amitié spéciale avec elle. Tu sais, il y a quelque chose qui, ça clique, tu sais. Fait que, mais ce ne sera pas le même rapport que j'ai avec mon épouse. Oui, Hélène. Je comprends, François, que je ne réponds pas à tout. Puis je suis très conscient que je ne trace pas toutes les lignes puis tous les cadres. D'accord? Je suis très conscient de ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut chercher la maturité puis la sagesse. Je m'excuse, Hélène, je t'ai coupé, je reviens à toi. Mais je crois qu'il faut vraiment faire attention à ne pas commencer à dresser des murs là où ils ne doivent pas être. Parce qu'après ça, quand quelqu'un se convertit puis il découvre les relations dans l'Église, il y a quelque chose qui manque de sainteté puis de maturité. Et ce que ça donne dans les faits, c'est soit que tu as des églises qui sont très, très serrées, fait que ça n'a pas l'air d'être n'importe quoi les rapports goffés, parce que tu es mieux de ne pas marcher tout croche, tu vas te faire ramasser, ou soit que tu t'en vas dans d'autres églises où on le sait, là-bas, man, c'est ça accrouse toute la gang, tout le temps, n'importe qui. Je ne pointerai pas personne, mais vous connaissez des églises où c'est ça la réputation. D'accord? C'est n'importe quoi les relations goffées, pas dans le sens qu'ils ne se parlent pas, dans le sens que ça sort tout le temps, puis tu sais que quand ça sort, je m'excuse, je vais être vulgaire, ça couche. Vous comprenez? C'est ça, là. C'est parce qu'il n'y a pas de maturité dans ces relations-là. C'est pas une loi qui n'est pas biblique qui va apporter la maturité. Mais c'est pas le même rapport, je suis d'accord avec toi. Oui, Hélène. Absolument. Oui.
Au fait
Oui.
Et une amitié en particulier avec l'autre sexe peut devenir ça.
Oui.
Alors, j'ai un petit peu de souci avec la
prononciation de manque de maturité. Oui, oui. Bien, premièrement, je m'excuse, je ne vais pas répéter tout ce que tu as mentionné. Là, je n'arriverai pas à tout le faire. Je vais plutôt y aller en répondant puis en expliquant. Premièrement, si je reviens juste sur Jésus, c'est clair que Jésus troublait vraiment son époque dans son rapport avec les femmes. Puis ce n'est pas juste avec la Samaritaine. Dans le cas de la Samaritaine, il était seul. C'est ça qui a troublé les disciples, c'est qu'ils sont revenus puis il était seul avec une femme. Il parlait puis c'était une femme samaritaine. Mais il y a une femme de mauvaise vie qui est venue laver les pieds de Jésus avec ses cheveux en pleurant dessus. Ça regardait vraiment, vraiment mal. Même aujourd'hui, ça regarderait vraiment mal. Vous imaginez là une prostituée qui rentre ici? Non, non, je sais, Hélène. Je vais juste te dire, je veux juste établir quelque chose de très clair. C'est que le rapport que Jésus avait avec les femmes troublait l'époque parce qu'il y avait une liberté. Il les traitait comme ses égales sur le plan humain. Puis il était en rapport avec elles comme il était en rapport avec des gars généralement dans des situations de groupe, je suis tout à fait d'accord. Mais ce phénomène-là de son rapport avec la femme, qui est différent, qui est beaucoup plus libre, est à répétition. Il vient à répétition. Alors oui, il y a cette situation-là avec cette femme-là, mais il y a les femmes qui étaient là au pied de Jésus, qui Jésus va leur dire, c'est correct que vous arrêtiez de servir pour venir avec les gars et écouter les enseignements. C'est ça qu'il est en train de faire, là, d'accord, avec Marthe puis Marie. Donc, il est en train de mettre ces sœurs-là à quelque part sur le même pied d'égalité que les femmes. J'arrive avec les enseignements de Paul. Paul me dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Non, 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 non. Fait qu'il y a vraiment une nouvelle liberté à l'intérieur de l'Église qui n'était pas là dans la culture de l'époque. D'accord? Maintenant, ça, c'est ce que je crois qui est vraiment clairement biblique, qui est présent. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, on va vraiment juste finir la leçon 3, je suis désolé. Je ne suis pas en train de dire que je vais développer une amitié avec une femme puis on va passer notre temps à sortir ensemble au restaurant seul à seul. Je l'ai dit tantôt, ça se peut que je communique bien des choses à travers ça. Ça se peut que moi, je me mette dans une situation où je peux avoir bien des combats, d'accord? Fait que je pense que la majorité du temps où je vais avoir une amitié avec quelqu'un de l'autre sexe, ça va être dans des situations de groupe. C'est ça qui va se passer. Ça ne veut pas dire, Hélène, que si tu m'appelais et tu me disais, Yannick, mon poil est brisé, tu viendrais-tu m'aider? Que je vais dire, ben écoute, ça me prend quelqu'un qui vient avec moi, fait que je ne viendrai pas t'aider pour l'instant, ça me prend un témoin qui est là quand je rentre dans ta maison, d'un coup que. Ça ne veut pas dire que je vais aller jusque-là. Tu comprends? Parce que tu es ma petite sœur, tu es mal prise, puis je m'en viens t'aider. Si tu me redemandes de revenir pour faire ton ménage, puis après ça, faire ton époussetage, puis finalement, tu me demandes de venir chez vous, faire des petites affaires toutes les semaines, je vais me dire, ouh, je pense que là, notre relation, elle risque de glisser vers quelque chose de peut-être malsain, tu comprends? Fait que je vais mettre un principe de sécurité. Fait qu'il faut être sage. Il faut être sage. Je veux prendre soin du cœur de l'autre. Je veux prendre soin de mon cœur. Je veux prendre en considération le fait que la chair est faible. Mais parce que la chair est faible, ça ne justifie pas d'élever un paquet de murs où, finalement, j'ai juste des vraies amitiés avec des gars. Non, je vais plutôt les vivre en situation de groupe, les amitiés avec les filles, mais j'ai des vraies amitiés avec les filles. Puis, il faut être capable de vivre à quelque part cette liberté-là. Il ne faut pas la forcer. Parce que la personne qui est devant moi, elle arrive avec son héritage. Puis elle a son bagage à elle. Ça se peut que dès que tu t'engages là-dedans, pour elle, c'est un rapport de séduction. Puis non, c'est pas ça qu'elle veut. Ça se peut qu'au contraire, ce soit une menace tout de suite, puis elle soit insécure. Il y a un paquet d'affaires qui se peuvent. Donc, je dois faire attention, je dois prendre soin de l'autre. Et c'est pour ça, je pense que généralement, ça va se développer dans les situations de groupe. D'accord? C'est important de le vivre comme il faut parce que, par exemple, pour ceux qui ont des ados, là, je vois les pèlerins en arrière, là. Pour ceux qui ont des ados, pour moi, ça a été même choquant au début. J'arrive, puis je m'en vais reconduire mes enfants dans un contexte de jeunesse. Puis les gars, les filles, ça se fait des accolades, toute la gang, puis une super liberté là-dedans. Puis je sais bien qu'à un moment donné, il y a des situations où, tu sais, il y a quelque chose qui va se passer. Mais il y avait sur le coup, j'étais choqué. Puis après ça, je me disais, mais coudonc, c'est correct, là, il n'y a rien de mal. C'est des situations de groupe, tout le monde est là, il n'y a pas trop. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez le faire si vous êtes mal à l'aise. C'est pas ça que je suis en train de vous dire du tout, là. D'accord? Il faut prendre soin les uns des autres. Mais la prochaine génération, là-dessus, elle est beaucoup plus libre. Puis des fois, ben oui, c'est des ados, fait que des fois, ça va déraper, puis là, ils commencent une amitié ensemble, puis là, ils se rendent compte que non, tu ne peux pas être confident d'un gars puis d'une fille comme ça tout le temps. Il y en a un des deux qui va avoir mal, puis OK, c'est ça, en l'adolescence aussi, on apprend à dire, je suis désolé, j'ai manqué de sagesse, je me suis trop investi avec toi, on est devenu comme des amis vraiment intimes, puis il est arrivé ce qui devait arriver, tu as un croche sur moi. Bon, fait que là, tu enseignes tes ados. Ceux qui ont des ados, vous savez c'est quoi. Fait que tu enseignes tes ados, c'est pas ça, c'est pas ça, j'ai un manque de maturité, tu es allé beaucoup trop loin, tu as développé une amitié que tu devrais avoir plus avec un gars dans ce cas-là. Fait qu'il doit y avoir de la sagesse. D'accord? Je suis très conscient que je brouille des cartes pour plusieurs, puis vous voudriez que je vous donne un code de conduite. D'accord? Vous voudriez que je vous dise A, B, C, ça c'est bon. D, E, F, ça c'est pas bon. Puis voici, si tu fais ça comme ça, parfaitement, ça va fonctionner. J'en ai pas, parce que je peux pas en avoir vraiment. Il y en a pas. Il faut chercher la sagesse puis la maturité. Alors, mon rapport avec tout le monde, ça doit être un rapport sain. S-I-N-T. D'accord? Ça doit être un rapport pur, que ce soit avec des gars ou avec des filles. Avec tout le monde, ça doit être ça. Si j'arrive dans l'église, je suis devant quelqu'un qui est d'une autre race que la mienne, ces barrières-là sont censées tomber. Je suis avec quelqu'un qui est de l'autre sexe, il y a des barrières qui sont censées tomber que moi j'avais lorsque j'étais dans le monde parce que j'étais toujours dans des rapports de flirt avec les filles. Vous comprenez? J'ai pas besoin, les filles n'ont pas besoin d'avoir peur que je sois en train de toutes les crouser. Parce que je suis dans le Seigneur, mon rapport va changer. Donc, il y a des choses qui doivent évoluer, qui doivent changer, puis il y a une maturité qui doit s'installer. Ça demande la sagesse. On est en Église. Alors, pour moi, c'est ça la beauté de l'Église. C'est qu'on vit en communion les uns avec les autres, puis les gens sont là autour de moi pour dire, « Yannick, es-tu sûr que tu prends bien soin de cette sœur-là? J'ai l'impression que vous jasez souvent, puis il y a quelque chose qui peut se passer. » Parce que il me semble que, tu sais, donc on vit ça en situation d'église. On est là pour veiller les uns sur les autres, prendre soin. Écoutez, si je vous ai totalement choqué puis vous voulez m'envoyer des questions ou un char de bêtises, vous pouvez m'envoyer un courriel, d'accord? On prend tous les fleurs et les pots. Mais gênez-vous pas, d'accord? Si vous avez d'autres questions, je savais que j'ouvrais une boîte de Pandore. Ça aurait été intéressant d'aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'on le fera, on le traitera un peu à travers le panel puis je vais voir ce que je fais avec ma leçon 4. On va dire un mot de prière pour terminer. Père éternel, merci pour ces discussions franches. Merci parce qu'on a la liberté d'exprimer nos réserves, nos désaccords, nos doutes, nos questionnements. Seigneur, merci pour ton esprit qui a fait de nous une communauté nouvelle, Seigneur, et sans l'ombre d'un doute, cette communauté-là vit dans des règles de relations qui ne sont pas les mêmes que dans le monde. Et Seigneur, on a besoin que tu nous enseignes. On a besoin de sagesse, de maturité, de pureté, de sainteté, d'amour, Seigneur, d'accueil, d'ouverture. Alors, je te prie, Père, de nous faire grandir en maturité. Merci pour tes grâces, merci pour ta parole, Seigneur. Fais de nous le peuple de Dieu, le peuple mature, le témoignage, la lumière, Seigneur, pour le monde qui nous entoure, qui est tellement confus sur les rapports hommes-femmes, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.